Radio Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment promouvoir le tourisme en République démocratique du Congo? Nous recevons aujourd'hui dans ce studio Monsieur Jean-Paul Ramazani, expert en tourisme. Monsieur Jean-Paul, bonjour.
Bonjour, mes téléjournalistes.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. Des questions et préoccupations par rapport au tourisme, appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Changement du format des bulletins scolaires, quelle est l'opportunité, pourquoi est-ce qu'on a procédé au changement du format des bulletins? Eh bien, on va en parler dans cette émission avec, si tout va bien, Monsieur Jacques Audia, et qui est l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. David Yatezo, président de l'ANAPECO, sera également de la partie, ainsi que Serge Bondedi, le secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education. Voilà. Eh bien, pour participer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert, il suffit d'appeler au 081 890 63 94, on va vous enregistrer et puis nous allons vous rappeler pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Marcel Ngomo Balakeba sur la coordination, Célestine Massoudi à la réalisation et Polydor Bansunga est à la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. La RDC dispose des parcs et sites touristiques qui peuvent attirer de nombreux visiteurs ou touristes. C'est le cas des parcs de Virunga, Maiko, Kahuzi-Biega et Salonga. Il y a également d'autres sites, notamment le jardin botanique de Kisantu ou le jardin des Yala. Mais depuis quelques années, le tourisme bat de l'aile dans notre pays et pourtant, ce secteur peut constituer une véritable source de revenus pour le pays, à l'instar d'autres États africains tels que le Kenya, la Tunisie ou l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le secteur touristique, pour promouvoir le tourisme en RDC? Nous recevons Monsieur Jean-Paul Ramazani, expert en tourisme. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi le tourisme, Monsieur Jean-Paul?
Alors, il faut commencer par définir d'abord le tourisme pour que nous puissions comprendre de quoi nous voulons parler maintenant. Et je prends la définition la plus simple de l'Organisation mondiale du tourisme. L'OMT définit le tourisme comme les activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs. Par rapport à cette définition, vous voyez qu'il n'y a pas seulement les loisirs, parce qu'ici nous confondons le tourisme avec les loisirs. Il y a les affaires. Et il y a d'autres motifs, ça veut dire que tous les motifs qui doivent générer le tourisme ne sont pas arrêtés, du coup.
Au loisir.
Non.
Donc,
non. Ne sont même pas exhaustifs.
Oui.
À la date d'aujourd'hui. Il y a plusieurs autres motifs qui ne font que se retrouver au fil des ans.
Par exemple, quand vous allez visiter la nature, c'est du tourisme, c'est des moments de loisirs, mais vous allez aussi pour des affaires, comme beaucoup des Congolais vont à Dubaï, c'est aussi du tourisme.
Oui, ça aussi, il faut que nous puissions essayer de comprendre pourquoi on confond le tourisme avec les loisirs. Il est vrai que le tourisme a été né des loisirs et surtout des aspects culturels, c'est dans la culture des peuples.
Donc, il y a les loisirs, mais à part les loisirs, il y a autre chose, il y a les affaires.
Il y a autre chose, il y a les affaires.
D'accord.
Il y a toute la structure économique qui accompagne le tourisme et qui a aussi été générée par le tourisme.
D'accord. Alors, quel état des lieux vous faites du tourisme dans notre pays?
C'est déplorable. Sur cet aspect-là, je crois que nous sommes en train de vouloir entreprendre là où nous n'avons rien fait. Je m'explique. Le tourisme ici chez nous se comporte comme un secteur controuvé. Ça veut dire que là où toute personne qui n'a pas de formation touristique, qui n'a pas été socialisée dans les domaines du tourisme, peut entreprendre. Et dans ce cas, on se lance plus au loisir qu'à l'économie en oubliant que c'est tout un secteur économique. Lorsqu'on dit que le tourisme peut générer beaucoup de revenus, mais il faut investir.
Ça veut dire qu'il y a le loisir, mais derrière ces loisirs, on peut générer beaucoup d'argent.
D'abord, pour que ces loisirs puissent profiter au tourisme, il faut investir dans les domaines. Et c'est ça le plus grand problème, l'investissement. Donc, ici chez nous, quand vous voulez que je puisse faire un état des lieux rapide, il y a les problèmes de gouvernance. Deuxièmement, il y a les problèmes de management touristique. Nous avons les problèmes de leadership, les problèmes d'entrepreneuriat dans le tourisme et enfin les problèmes d'investissement touristique qui se posent dans notre pays.
Mais les sites touristiques, on en a. On a des endroits
les sites touristiques
magnifiques dans ces pays que les gens peuvent aller visiter.
Tout à fait. Je vais donner une petite image, messieurs les journalistes.
Oui.
Les enfants, quand ils naissent, prenons les filles, quand elles naissent, elles sont toutes jolies, hein, toutes belles. Vous avez déjà vu un bébé, on dit non, un bébé lait, non. Mais lorsque la fille commence à grandir, on dira non, on doit ajouter un peu de cheveux, on doit ajouter ça. Donc, il faut l'entretenir pour que elle puisse attirer les yeux des hommes. C'est la même chose. Nous avons des sites, nous avons parfois des attractions touristiques, mais il faut les entretenir. Non seulement les entretenir, il faut faire ce qu'on appelle le montage des séjours touristiques. Il faut que ces sites-là, où ces attractions deviennent des produits touristiques.
D'accord. Aujourd'hui, quels sont les grands sites touristiques que nous avons dans notre pays?
Bon, si nous voulons catégoriser, nous pouvons dire nous avons ce qu'on appelle des sites naturels. En principe, vous avez les parcs, vous avez les jardins, vous avez tout ça, c'est que Dieu a créé les fleuves, ainsi de suite. Mais nous avons aussi des sites qu'on appelle néogéniques. Ça veut dire que des sites qui ne sont pas seulement naturels, mais qui ont été transformés par l'homme. Et dans ces cas-là, nous avons aussi des sites culturels. Nous avons les immeubles, nous avons qui en principe véhiculent une histoire d'un pays, d'une nation, d'une culture quelconque. Donc il y a
généralement, qu'est-ce qu'on retrouve dans un site touristique?
Non, d'emblée, on ne peut pas vous dire, c'est par rapport à la nomenclature même du site. C'est la nomenclature.
Par exemple, dans nos parcs que nous avons, il semble qu'il y a des animaux, par exemple les okapis, qu'on ne retrouve pas ailleurs, que les gens peuvent visiter. Nous avons les gorilles, etc.
Oui, mais
les bonobos.
Le parc n'a pas été créé d'abord pour des besoins touristiques. Il faut que nous puissions en parler. Les parcs ont été créés
pour des besoins de la conservation
de la nature.
C'est mais au-delà, au-delà,
oui,
de
au-delà
cela,
voilà. On peut maintenant les transformer en produits touristiques. Et c'est à ce niveau-là que nous, il faut que nous puissions nous entendre. Ce n'est pas vous et moi tels que nous sommes là, vous dites non, maintenant j'ai créé une entreprise touristique. Non, il y a des normes. Et dans les secteurs économiques ou commerciaux touristiques, nous avons les tour opérateurs qui sont les fabricants de séjours. C'est eux qui montent les séjours touristiques. Et ils peuvent les vendre par l'intermédiaire des agences de voyage. C'est pas comme nous voyons les agences de voyage ici qui se limitent à la billetterie. Non, on doit aller au-delà.
Au-delà.
Au-delà. Et c'est là où nous parlons même des flux touristiques. Ce ne sont pas des touristes isolés qui peuvent, en principe, donner la notoriété à un site touristique ou à une destination touristique. C'est lorsque les tour opérateurs programment votre pays, votre destination, et ces tour opérateurs envoient des touristes pour séjourner dans votre pays, alors on va engranger des recettes touristiques. C'est pas d'une manière isolée. Quels sont les tour opérateurs qui programme la RDC.
Qu'est-ce que vous entendez par tour opérateur?
Tour opérateur, j'avais dit ici d'une manière brève, c'est l'entreprise qui conçoit les séjours touristiques.
Ici, dans notre pays, est-ce que nous avons ce genre d'entreprise?
Non, on n'en a pas. Malheureusement.
On n'en a pas?
On n'en a pas. Jusque-là, à ma connaissance, on n'en a pas. Non. Ce n'est pas une personne humaine, une personne physique, vous et moi, non. C'est une personne morale, c'est une entreprise et qui demande beaucoup de ressources pour être... C'est
une entreprise privée ou qui est de l'État qui dépend du ministère du tourisme?
La plupart des fois, ce sont des entreprises privées. La plupart des fois. Ce sont des multinationales aussi. Hein. Il y en a partout au monde qui peuvent venir chez nous, qui peuvent venir programmer la RDC. C'est à nous d'ouvrir la destination RDC. Et qu'ils viennent, que nous puissions les côtoyer. Et c'est ça le rôle de l'Office national du tourisme. Pour aller à l'étranger, montrer ce que la RDC est capable de donner à la face du monde sur les plans touristiques et inviter ces tour opérateurs.
Il faut faire une sorte de marketing de
oui,
la RDC.
Marketing, oui, de
à
la l'extérieur. RDC. Tout à fait. Mais ça demande beaucoup.
Il y a des conditions à remplir.
Beaucoup de ressources financières.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à l'état actuel? Qu'est-ce qu'on doit faire pour valoriser le tourisme dans notre pays, promouvoir le tourisme dans notre pays?
Alors, la première chose, on doit d'abord réhabiliter...
Les sites touristiques.
Non. Les attributions de l'administration nationale du tourisme. Je parle en tant qu'expert. Quand nous parlons de l'administration nationale du tourisme, nous avons là trois entités précises dedans.
Lesquelles?
Nous avons les ministères du tourisme, où nous pouvons parler du cabinet du ministre, qui, en principe, doit donner des orientations politiques qui viennent du gouvernement. Nous avons le secrétariat général au tourisme, qui, lui, doit s'occuper de la police dans le tourisme, c'est-à-dire essayer de vérifier les normes, si les hôtels que nous avons respectent les normes, si les compagnies que nous avons de transport respectent les normes, ainsi de suite. Et vous avez l'Office national du tourisme. C'est un
établissement. Mais ces structures existent déjà.
J'ai parlé de réhabiliter les attributions de l'administration nationale du tourisme.
Est-ce que ces attributions ont été retirées pour être confiées à d'autres structures?
Non.
Alors, comment parlez-vous
les attributions existent.
Oui.
Mais je crois que elles ne sont pas suivies à la loupe. Ces structures dont j'ai parlé ici n'assument pas leurs responsabilités jusqu'au bout. C'est ça le problème.
Et pourquoi qui va les réhabiliter?
Ah, mais c'est l'autorité.
Parce que ces structures existent déjà. Nous avons l'Office national du tourisme, le secrétariat national du tourisme, et puis ils connaissent bien leurs attributions.
Oui, mais il y a la régulation qui s'opère au niveau du ministère. C'est ça pourquoi j'ai dit la vision vient du ministère, du gouvernement. Que doit faire le secrétariat général du tourisme? Ça doit être écrit
clairement noir défini.
Sur blanc.
Jusqu'aujourd'hui, les choses ne sont pas claires.
J'espère que c'est clairement défini, mais les gens ne suivent pas ce qu'ils doivent faire.
Oui.
Que doit faire l'Office national du tourisme? Parce que vous trouverez même que les institutions se rentrent dedans.
Un instant, on va accueillir Eric Sama depuis Kinshasa. Bonjour Eric.
Bonjour monsieur journaliste et aussi bonjour aux invités, ou bien à l'invité et aussi aux auditeurs.
Quelle est votre question par rapport à la promotion du tourisme en RDC?
Merci beaucoup. Il est quasiment vrai de noter avec attention particulière que le secteur du tourisme en RDC est très négligé dans tous les niveaux. Car ce secteur peut constituer une très belle, véritable source de revenus pour la RDC, à l'instar du Kenya, Égypte et aussi Tunisie. Mais certes, monsieur Jordi, le problème pour la RDC tient du fait que les sites touristiques ne sont pas entretenus dans le jardin et parcs tel que décidé dans le sujet du jour. Donc, pour promouvoir le tourisme longtemps bafoué, donc chez nous, la RDC, il faut une remise à niveau des agents impliqués par la protection de nos sites touristiques jetés dans les oubliettes par les autorités compétentes à la matière. Et donc, en définitive, il faut commencer par la réforme législative en supprimant des lois et règlements rigides qui sont à la base de l'insécurité juridique. Tout ça, c'est pour, en fait, favoriser la sécurité juridique judiciaire des expatriés car, en venant au pays, et ils peuvent en fait investir à la matière et le gouvernement doit être bénéficiaire. C'est un peu ça. Mais sinon, qu'on ne condamne pas seulement le gouvernement, nous aussi, les particuliers, nous pouvons aussi aider le gouvernement à avancer dans cette matière. Merci beaucoup.
Bien, Gilbert Lokwa, depuis Mbandaka. Bonjour.
Oui, bonjour à Radio Kapi et le salon aussi l'invité.
Gilbert, déjà en passant à Mbandaka, quels sont les. Y a-t-il des sites touristiques?
Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je dirais qu'à Mbandaka, nous avons les jardins botaniques et les Yalaki est parmi les grands jardins du monde, pourquoi pas du pays. Mm-hmm. Mais si aujourd'hui le gouvernement congolais, à travers l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui est l'ICC, pourrait en quelque sorte valoriser cette aire protégée, on pouvait aussi avoir beaucoup de revenus. Parce que le secteur du tourisme dans notre pays constitue parmi les secteurs qui pourraient générer beaucoup de moyens. Parce que, comme vous le savez, la RDC est un pays qui engorge beaucoup de ses prises en termes de la biodiversité, en termes des écosystèmes que nous considérons. Mais si aujourd'hui, et Yala, parce que je fais allusion à Yala, je suis en 7 km de Yala qui est un jardin botanique. Et ce jardin botanique est délaissé par son tissu sort. Si vous entrez là-bas, tout est perdu. La beauté du jardin n'est pas les mêmes. Et ça constitue un manque à gagner. Parce qu'à jardin, Yala constitue vraiment un site touristique où les gens quittaient Belgique, quittaient la France, quittaient d'autres pays du monde, venir ici à Mbandaka pour non seulement faire des recherches scientifiques, mais aussi pour promouvoir le tourisme. Et cela générait beaucoup d'argent. Mais si aujourd'hui vous allez à Yala, rien n'est jusqu'à présent. À Yala, on entre avec un 1 000 francs ou 1 500 francs. Ça donne combien? Et si 1 000 francs est compris là-bas pour entrer dans les sites, ce n'est pas grand chose parce que si vous allez là-bas, au moins 2 ou 3 personnes, 4 personnes visitent Yala chaque semaine. Or que si on pouvait mettre des moyens, des gouvernants congolais pouvaient mettre des moyens à Yala, à Salunga, parce que je connais aussi Salunga qui est aussi un site touristique et que si aujourd'hui on mettait beaucoup d'argent, la RDC pouvait gagner beaucoup d'argent. Parce que à Salunga, si vous entrez là-bas, il y a des endroits, des grottes, il y a des surprises là-bas que non, si vous vous commouvez, si vous donnez la valeur à ces terres protégées, les gens pouvaient quitter Belgique et venir à Salonga. Et si les gens quittaient Belgique et venir à Salonga, non seulement faire des recherches comme je l'ai dit tantôt, mais aussi visiter cette nature qui est vraiment très belle, et ça pourrait beaucoup générer la. Mais je dois aussi excusez pour je dois aussi évoquer un autre aspect qui est très important, parce que le secteur du tourisme, monsieur le journaliste, ça non seulement ça donne ça fait générer beaucoup de moyens financiers au niveau du pays, mais aussi ça entre dans le cadre de la culture. Parce que et si on se dit un monsieur qui quittait Belgique, qui quittait France et venir ici à Mbandaka et aller par exemple et visiter et parfois les arbres, visiter parfois tout ce qu'on peut trouver là-bas et là, ça donne aussi la beauté de la culture. Parce que et si un monsieur qui venait en Mbandaka, il est rentré à Belgique, il doit promouvoir la culture qu'il a vu en Mbandaka. Donc ça, c'est dans ce sens-là que moi je conseille au gouverneur congolais, parce que je suis aussi environnementaliste et je connais l'importance du tourisme dans notre pays. La RDC qui s'est bâtie jusqu'à présent pour essayer de booster son économie sur les plats, sur les produits miniers, sur les cobalt, les diamants, et ainsi de suite. Mais si je dois avouer ici que si aujourd'hui l'RDC mettait des moyens, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Environnement, mettait des moyens pour aménager, pour
réhabiliter les sites touristiques.
Pour les sites touristiques du pays, vraiment, l'RDC aura beaucoup de moyens, comme vous avez fait allusion à Kenya et d'autres pays. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais vous donner. Mais là, j'aurais une seule question à poser à l'invité.
Laquelle, Gilbert?
Il semble que le secteur est abandonné. Monsieur l'invité, que je voulais juste savoir, parce que aujourd'hui, en Mbandaka, il y a là. Ici, à 7 km de moi, fait partie des jardins botaniques qui a donné l'image de notre pays.
Gilbert, on parle aussi en Mbandaka d'un endroit où traverse la ligne de l'équateur.
Oui, c'est à Bolenga ici. Exactement, c'est voilà. À Bolenga ici, donc 3-4 km de là où je suis. Voilà. À Bolenga, il y a un endroit où passe la ligne équatorienne. Et si aujourd'hui cet endroit est délaissé, si vous arrivez là-bas, rien n'est fait.
Il n'y a rien.
Rien n'est fait. Ok. Oui, il n'y a rien. Ok, cet endroit-là, si on pouvait l'embellir, si cet endroit, on voulait valoriser cela, les gens pouvaient quitter l'Europe
pour venir voir
comment la ligne équatoriale passe. Donc ce sont des choses que si on mettait du sérieux.
D'accord.
On pouvait.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Ramadian. Donc lui, il a dit qu'il faut beaucoup plus mettre des moyens, mais on comprend qu'il n'y a pas une politique claire de promotion du tourisme dans notre pays. Parce qu'avant de mettre les moyens, il faut que les choses soient clairement définies. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre tourisme?
C'est ce que j'ai dit ici, les problèmes de gouvernance. J'avais parlé de gouvernance. J'ai parlé des problèmes de leadership, de management. Mais j'aimerais quand même que nous puissions revenir, parce que vous parlez toujours des sites touristiques, c'est comme si on ne comprend pas ce que c'est un site touristique. C'est ça le problème. Les sites touristiques font partie des structures d'animation touristique. Et nous avons deux catégories de structures d'animation. Il y a les structures qu'on peut créer ex nihilo. Il y a des structures qui voudraient qu'il y ait des actions préalables.
Par exemple?
Les structures qu'on peut créer ex nihilo, il y a les sites touristiques, il y a les comptoirs touristiques et il y a l'espace touristique. Et là, je vous renvoie dans ma publication que j'ai faite. Malheureusement, on ne lit pas. Mais il y a des structures qui exigent des actions préalables. Vous avez la ville touristique, village des vacances. C'est pas ex nihilo qu'on crée, non. On commence. Comment les faire? Parce que tout le monde confond site touristique, non. J'ai dit, il y a des sites touristiques. Ça, nous pouvons dire que ça, c'est un site touristique. Là, nous avons un comptoir touristique. Là, nous avons un village des vacances. Il faut que nous puissions essayer de donner la nomenclature.
Alors, quelle est la différence entre le village de vacances, site touristique et comptoir touristique?
Est-ce que nous avons le temps pour que je puisse...
Rapidement, vous pouvez définir ces concepts rapidement.
Bon, le site touristique est défini comme un lieu caractérisé uniquement par des pratiques de passage de la part des touristes. On ne réside pas sur un site touristique, mais on les visite.
D'accord.
Ça, c'est les sites touristiques. Mmh. Le comptoir touristique est défini par la primauté de l'activité touristique. Mais c'est un lieu créé ex nihilo pour accueillir des touristes 2 ou 3 jours, même 1 semaine. Donc, c'est au-delà des sites touristiques.
Mmh. Donc, au-delà de la simple visite,
oui, on peut demeurer là pendant
là-bas,
2, 3, 4 jours.
Il y a des chambres, il y a tout
oui.
ça,
ça veut
des
dire
hôtels.
Qu'il faut créer des animations qui puissent faire que la population qui viendra ou les touristes qui viendront là puissent se réjouir, puissent se divertir pendant tout ce temps.
C'est comme aux chutes des Zongo ici dans le Congo central.
Par exemple, oui.
Vous avez
oui.
la chute et puis
oui.
vous avez aussi
oui.
des cabanes
oui.
ou des endroits où les gens peuvent rester.
Oui, nous devons en avoir un peu partout.
Mm.
Si vous prenez seulement les couloirs Kinshasa, Congo central, océan, on peut créer autant de comptoirs touristiques. Et j'ai fait même une étude là-dessus. Si vous prenez l'axe Goma et Bukavu, c'est la même chose. Kisangani, Lubutu. Donc, on peut créer des comptoirs touristiques comme ça.
Mmh.
Des villages de vacances pour maintenant donner ce que
la culture touristique et village de vacances, c'est la même chose?
Non,
c'est
pas la même chose.
Alors, c'est quoi un village de vacances?
Le village de vacances est une structure d'hébergement touristique au bord des mers, ou ici nous dirons...
Au bord du fleuve,
de
rivière.
De l'océan, mmh. ainsi de suite.
Oui.
Et puis, même des montagnes. Donc, on cherche d'abord qu'il y ait des attractions. Soit vous avez la mer, vous avez l'océan,
vous avez
des collines,
montagne, tout ça. Oui.
Pas collines, non, montagne.
Montagne.
Oui. Alors, il y a des unités d'habitation indépendantes là-bas. Et on peut doter des équipements. Vous voyez, par exemple, des manèges. Des manèges, tout. On fait en sorte que quand les gens y vont, ils peuvent y passer même 1 semaine, 2 semaines de vacances. Donc, dans cet espace-là, personne ne bouge, mais on fait en sorte que chaque jour, la personne puisse avoir toujours l'idée d'y résider.
C'est tellement beau, c'est tellement agréable.
Tellement beau,
on a envie de rester
oui,
là-bas.
Oui, on a une panoplie de manèges, d'activités qui puissent retenir les gens-là.
C'est comme Mwanda aussi. Il semble que c'était un endroit où on peut valoriser Mwanda.
Il faut valoriser.
Avec cette vue sur l'océan.
D'où les problèmes d'investissement. On ne parle pas d'investissement touristique.
D'abord, il y a un problème de gouvernance,
oui.
vous l'avez dit.
Oui.
Et puis,
il y a l'investissement.
Je parle
des problèmes d'investissement. Mm. L'investissement touristique a 2 caractéristiques principales.
Lesquelles?
D'abord, on doit savoir que les touristes, c'est une industrie lourde, mais à rentabilité lente. Ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui,
vous n'allez pas gagner
demain.
Tout de suite. Oui.
Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Il faut du temps. C'est comme une compagnie aérienne. Vous investissez dans la compagnie aérienne aujourd'hui, c'est pas dans 2 ans que la compagnie sera rentable, non. Parce qu'il faut du temps. Et puis, la deuxième caractéristique, industrie lourde, mais à financement onéreux.
Ça coûte cher.
Oui, ça coûte cher et il y a trop de risques. Il faut...
Surtout dans notre pays, il y a des risques sécuritaires. D'abord,
tout ça.
Pour
mais
que
même
les
là où il
n'y
a pas
arrivent...
de problème de sécurité,
oui.
les risques existent. Les risques existent. Ça veut dire que c'est l'État qui doit donner le ton. L'État congolais. Sur le plan d'investissement, qu'est-ce qu'on donne pour investir dans ces domaines? C'est pas ce que je suis en train de voir ici, non.
Regardez par exemple à Kinshasa, le week-end, quand c'est les samedis, les gens quittent la ville parce qu'ils ont envie d'aller se détendre dans la périphérie.
Oui, ils vont même
ils vont à Maluku, ils vont ailleurs vers...
à Kinkole.
Kinkole, etc. Kinkole, mais oui. qu'est-ce qu'il y a là-bas d'attractif?
Malheureusement, il n'y a rien.
On mange quelques maboké, on prend la bière et c'est tout.
Et nous ne sommes pas conscients. En principe, ce n'est pas... C'est en principe de... Il faut avoir des opérateurs privés qu'on peut soutenir, encadrer pour ça. On ne se limite pas à aller manger les maboké. Et quel maboké encore?
Mal préparé.
Mal préparé, mal cuit. On ne connaît pas les maboké. Les gens qui sont partis à Mbandaka, à Kisangani, vous diront c'est que c'est Maboké. Donc c'est ça en principe. La culture, oui, mais il faut un investissement économique.
Bien, mais le gouvernement peut ouvrir les secteurs, demander aux investisseurs de venir...
Mais je crois que les secteurs ont toujours été ouverts.
Ouvert, il faudrait qu'il y ait des mesures incitatives amener les gens à venir investir dans ces secteurs-là.
Tout à fait.
Bien, on va accueillir des auditeurs. Malonga depuis Bandunduville et Justin Kalabia depuis Arou. Malonga, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci pour cette émission. Jody, vous voyez tout ce que l'invité... Et d'autres de mes confrères viennent de dire là. En tout cas, ça me choque, ça m'énerve ici. Nous avions étudié, nous tous, le coût de marketing. Si vous avez quelque chose et vous voulez le faire valoir, il faut le faire chanter chaque fois.
Mmh.
C'est habituel. Vous verrez que cette chose, même si ça a été négligé, ça sera très important pour tout le monde. Moi, je suis déçu. Est-ce que vous savez que tout notre pays... C'est un site touristique. Tout notre pays, à chaque point, à chaque village, à chaque milieu de notre pays, si un étranger arrive là-bas, ou bien les Congolais de l'Ouest, si arrive à l'Est, à la partie où il sera là-bas, il sera content et il sera gâté. Mais je regrette beaucoup avec nos chaînes téléviseurs. Ils prennent beaucoup de temps pour publiciter. De la bière, de cigarettes, de toutes choses, tout ça. Et ce qui fait ce que les Congolais n'aiment pas le tourisme, ils intéressent à ce qu'ils voient chaque fois de la télévision. J'ai apprécié le temps de grève des personnels de la RTNC ici, vous allez m'excuser pour citer les noms. Et nous avions vécu trois ou quatre jours comme ça. Ils nous baladaient seulement le film, hein, les documentaires.
Mmh.
En tout cas, c'était très très joli, je dis. Très très bien. J'aimais ce jour, même mes enfants ici, ils disent, ah, en tout cas, c'est bien. Or, ils avaient l'habitude de mettre ses mains, les CD pour voir d'autres choses, mais ce jour-là, ils ont barré de mettre les CD pour voir seulement la chaîne télévisuelle. Puisqu'ils baladaient le parc de Virunga, le zoo, tout ça. Et c'est ce qui fait à ce que les autres aussi soient attirés de venir voir ça. C'est l'un des deux points pour faire valoriser nos sites touristiques. Si le gouvernement, le ministre des médias et télécommunications, s'il impose à toutes les chaînes télévisées, même la radio aussi, de faire à chaque jour, il doit y avoir une séquence, de faire balader ça, et de voir même une heure, de terminer un documentaire. Le chef de réviseur commence seulement un documentaire, 2 minutes, 3 minutes, il coupe, ils ont d'autres choses. Il nous laisse vraiment dans le besoin de voir ce que nous vivons ici dans notre pays. Ici dans notre province, ici, à Kouilou.
Donc,
c'est un site touristique. Nous avons le lac. Nous avons le grand zoo ici, le fleuve. Vous voyez le tour, au moment où notre Kassai a changé de couleur. Nous avions reçu beaucoup de monde ici. Alors, pour faire tout ça, il faut bien équiper le secteur. Les gens aussi qui travaillent là au tourisme, ils ne sont pas bien encadrés. Comment est-ce qu'ils vont, ils seront contents ou bien ils seront courageux pour faire montrer chaque fois ou bien pour faire raconter et qu'ils sont aussi invités dans des radios comme Okapi pour raconter ce qu'ils vivent dans le pays. Pour moi, je vois que il faut que le ministère visiteur s'occupe de ce personnel et puis le ministère des médias et télécommunications impose, s'il vous plaît des termes, impose les émissions documentaires de notre pays pour que les étrangers, et nous aussi, nous sommes un grand pays, les Congolais de l'Est ne savent pas ce que nous vivons ici. Nous aussi, nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Mais à travers les chaînes télévisuelles, vous voyez que nos enfants et nous-mêmes, nous aurons le temps et le besoin d'aller vivre à Lubumbashi, d'aller vivre à Bunia, d'aller vivre à l'Équateur, puisque nous avions vu ça dans les télévisions. Merci Jody, en tout cas. Félicitations avec ces émissions.
Bien, merci Malonga de Bandunduville. Justin Kalabia, vous êtes à Arou, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Capi, ainsi qu'à notre invité du jour.
Alors, du côté de Darou, il y a aussi beaucoup de sites touristiques.
Et en tout cas, nous n'avons pas, en tout cas, des sites touristiques d'ambleur. J'aimerais ajouter le fait que mon compatriote vient de parler. Donc, les aspects importants qui boostent le développement dans d'autres sièges sont cela négligé en RDC. Le tourisme avait développé Israël et d'autres pays d'Europe, monsieur Jeudi, mais c'est un élément négligé dans notre pays. Pour promouvoir le tourisme longtemps bafoué chez nous, il faut une remise à niveau des agents impliqués pour la protection des sites touristiques, monsieur Jeudi. Par exemple, pour ce qui concerne notre parc qui se trouve à Ipoule dans le territoire de Mambasa, ici en tourisme, ce que je dis, c'est le parc est envahi par les rebelles ougandais, les ADF. Donc, le développement de notre... c'était un patrimoine qui pourrait nous aider au développement de notre pays.
Oui.
Et ma question est celle de savoir ce que j'ai dit. Et je ne sais pas, lorsque le parc est envahi par des rebelles,
oui.
comment nous, les Congolais, nous pouvons profiter à ce parc?
D'accord, merci Justin.
Oui, ma question est celle de savoir ce que j'ai dit.
Oui.
L'État ou nos dirigeants à toutes les atrocités commises dans tous les secteurs qui empêchent le développement de notre pays. Merci beaucoup, Jody.
D'accord, merci. Il évoque les aspects sécuritaires. Platini, vous êtes Mbombo, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Jody, bonjour, je salue l'invité.
Alors, rapidement, quelle est votre question par rapport à la promotion du tourisme à RDC?
Voilà, merci beaucoup, Jody. Avant de poser ma petite question, je voudrais quand même parler certaines choses.
Vous n'avez pas beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps, donc allez-y rapido.
Voilà, merci beaucoup. Bon, je veux quand même vous rassurer qu'ici à l'Équateur, il y a beaucoup de lieux touristiques. Je veux vous citer déjà, il y a la ligne de l'Équateur, il y a aussi le jardin botanique de la Pochette qui est là. Alors, ce que moi je peux quand même demander, si on va appeler l'accessible, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'Office national des touristes. Et aussi, il y a la division de tourisme. Alors, je ne sais pas là si on peut... Quelle est la différence entre l'Office de tourisme et aussi la division des touristes? Voilà ce que je voudrais avoir un peu de questions.
Vous avez des précisions là, c'est d'accord. Monsieur Jean-Paul, vous avez la parole.
Merci, messieurs les journalistes. Je remercie les auditeurs de la radio Capi pour leurs questions et pour leur intérêt au secteur du tourisme. C'est ce que j'étais en train de dire pour le développement du tourisme. Nous devons essayer de cerner les composantes du secteur. Ici, chez nous, nous avons l'administration nationale du tourisme. J'étais en train de parler, on m'avait arrêté. Nous avons le ministère du tourisme qui, en principe, impulse le développement du tourisme.
Et nous avons l'Office national du tourisme.
Nous avons d'abord le secrétariat général au tourisme,
oui.
Qui est l'administration, qui fait l'administration du tourisme.
Mais il y a une confusion entre ces différences.
Malheureusement, c'est une confusion entretenue à cause
de l'argent.
De l'argent, c'est tout. Et l'argent, c'est les fonds de promotion du
tourisme. On ne sait pas définir clairement les attributions, tel service s'occupe
les
de quoi.
Les attributions
sont clairement connues, mais on entretient la confusion.
On entretient la confusion.
À cause pour l'argent.
L'argent. C'est en principe l'Office national du tourisme qui doit gérer les fonds de promotion du tourisme pour le développement du tourisme sous la surveillance ou la tutelle qui est le ministère du tourisme. Le secrétariat général au tourisme fait la police du tourisme, contrôle, fait la normalisation des produits touristiques. Mais on veut confondre à cause de l'argent et malheureusement on ne sait pas trancher. Même si on sait que c'est ça la vérité, mais on ne veut pas trancher.
On veut pas parce que il y a des intérêts.
Oui, on entretient ça et c'est malheureux pour le secteur du tourisme.
Et ça bloque le développement du secteur.
Ça va bloquer tant qu'on ne va pas décanter cette situation. Dans la province, c'est ce qu'on dit, les agences de l'Office national du tourisme et la division. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'argent, les fonds de promotion du tourisme, qui en principe doit être géré par l'Office national du tourisme pour les besoins de promotion du tourisme. Mais on ne veut pas. On ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Donc, quand on ne veut pas trancher ces problèmes, je vous assure, le lendemain n'est pas meilleur pour les touristes. Il y a l'autre secteur, on parle de secteur opérationnel ou secteur commercial. J'avais fait allusion ici, nous devons avoir des tours opérateurs, parce que ce sont les tours opérateurs qui montent les produits. Ce sont les tours opérateurs qui...
Les agences de voyage peuvent jouer ce rôle-là.
Les agences de voyage sont des intermédiaires.
Ok.
Les tours opérateurs montent les séjours et quand maintenant on doit envoyer les touristes en séjour dans une destination, ils sont pris en charge par rapport au cahier des charges signé entre l'agence de voyage et les tours opérateurs, par rapport à ce que le tour opérateur a donné comme produit touristique.
Et les compagnies d'aviation peuvent aussi les être
les compagnies d'aviation viennent parce que ce sont les tours opérateurs qui négocient avec eux. Et j'aime que les gens puissent comprendre comment fonctionne le secteur économique du tourisme. Ce n'est pas un touriste qui vient comme ça. Le tour opérateur dit, tous les mois j'enverrai en RDC 1000 touristes. Vous comprenez? Les 1000 touristes vont atterrir à Kinshasa, ils vont avoir un séjour dans le Congo central, ils vont aller partout,
visiter tel endroit.
Quand les 1000 viennent ici, ils vont ailleurs, il y a encore d'autres 1000 qui viennent. C'est d'une manière continuelle.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on brasse l'argent touristique.
Et on a des bus, on a tout ce qu'il faut, les hôtels sont bien réservés pour ça.
Mais ce n'est pas
le cas ici. Les restaurants, etc.
C'est pas le cas. Et c'est le travail que l'administration doit fournir pour l'investissement touristique. Et nous, c'est comme là, nous n'avons aucune banque qui appartient aux Congolais. Aucune banque. Où est-ce qu'on va avoir des moyens pour financer? Même si on veut entreprendre dans les domaines du tourisme. On doit avoir aussi l'entrepreneuriat national dans ces domaines. La plupart des hôtels, vous verrez que ça appartient aux étrangers. La plupart des agences de voyage appartiennent aux étrangers. Mais les Congolais eux-mêmes, est-ce qu'ils savent ce que c'est une agence de voyage? L'agence de voyage se limite seulement à ça, à la billetterie? Non! Il y a les produits, donc ça doit être en connexion avec les tours opérateurs. J'insiste sur le concept tour opérateur qui est une entreprise.
Maintenant, ces tours opérateurs, où est-ce qu'on va aller les trouver?
Ah, mais ce sont des entrepreneurs, non? Il y en a à l'étranger. Kouoni, par exemple, c'est un tour opérateur. Il y en a beaucoup.
Est-ce qu'il y a des structures ici qui forment les tours opérateurs dans
notre
pays?
Non, on ne forme pas les tours opérateurs. Ce sont les entrepreneurs. Ce sont des entreprises.
D'accord.
C'est comme si vous voulez dire que pour que nous puissions avoir du pain à tout moment, il faut avoir des boulangeries. Il faut avoir des usines de panification. Si vous n'en avez pas, vous allez vous limiter au beignet. C'est ça en principe. Les tours opérateurs, on les crée parce que c'est une entreprise. Il y a des entrepreneurs.
Par exemple, dans certains pays, vous arrivez à l'hôtel, il y a des livres, avec des images, il y a des revues où on vous montre les différents sites touristiques dans la ville que vous pouvez visiter.
Oui.
Vous payez autant, il y a des bus qui vont vous faire promener et puis vous allez visiter tout cela en une journée.
En principe, ce n'est pas fait au hasard, c'est pas quelqu'un qui a fait, c'est en principe un tour opérateur.
C'est bien planifié.
Qui a créé ces circuits-là qu'on appelle produits touristiques. Et en voyant ça, vous savez que non, je vais profiter d'ici, je vais aller voir ça. Il y a même des accompagnateurs et des guides touristiques pour ça, qui vous accompagnent pour vous présenter. Si vous-même vous visitez et une autre personne vous fait visiter, c'est deux choses différentes. Mais ces gens sont formés, nous les formons. Mais est-ce qu'on les utilise? À l'ISP Gombe, il y a toute une filière de tourisme, de première année graduée en deuxième licence. À l'université de Kisangani, il y a l'école supérieure du tourisme. À l'université de Lubumbashi, à l'université de Kindu, un peu partout. Mais est-ce que le ministère du tourisme essaie de voir ce qui se passe là-bas? Non. Il n'y a pas une cohésion d'activité touristique par rapport à la formation et là où, disons, les lieux professionnels. Non. La plupart des gens qui travaillent dans des agences de voyage, vous verrez que ce sont des gens qui n'ont jamais étudié le tourisme. Ils l'ont appris dans l'État, sur l'État. Ce sont en principe des autodidactes. Est-ce que nous pouvons continuer à travailler comme ça alors que les institutions forment des gens qualifiés? C'est encore un autre problème. Et ceux qui... maintenant, dans ces institutions, on acceptera facilement ces gens. D'ailleurs, déjà pour les stages, ça pose un problème.
En parlant de Kisangani, par exemple, nous avons les sites Ouaguenia, Boyoma, qu'on peut valoriser, qu'on retrouve même dans la monnaie, tout ça, il y a les chutes de la Tchopo, c'est impressionnant. Plus de 10 mètres, c'est des endroits que les gens peuvent aller voir.
C'est vrai, ce que vous dites.
Des endroits à valoriser.
Quelqu'un qui voit les chutes Ouaguenia sur les billets des banques sera curieux d'y aller. Mais quand vous arrivez, qu'est-ce que vous trouvez? Il n'y a aucun aménagement conséquent. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun aménagement attractif qui puisse permettre à quelqu'un de voir.
À l'époque, le président Mobutu avait essayé d'arranger un endroit où...
Sa résidence officielle était en face des chutes Ouaguenia. Oui, mais ça, c'est l'État. C'est l'État qui doit revaloriser ça. Et c'est le rôle du ministère du Tourisme et du secrétariat général au Tourisme.
Alors, tant qu'il y aura confusion entre ces différentes structures de l'État, le tourisme aura du mal à se développer.
Ah, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Si papa et maman ne s'entendent pas par rapport à leurs attributions, comment voudriez-vous qu'un ménage puisse être stable? Il y a des histoires, on sait que c'est maman qui cuisine, c'est maman qui va au marché, on le sait. Et le budget vient, ça c'est pour la nourriture. C'est papa qui fait ça. On s'est réparti les tâches d'une manière irrévocable, avec les ressources qu'on dispose, qui doit gérer les ressources? C'est un fonds public, ça ne peut pas être géré par le ministère ou le secrétariat général au tourisme, non.
Est-ce qu'il y a d'abord un fonds? Vous parlez de ce fonds-là.
Il y a les fonds de promotion du tourisme qui existent.
Et il y a de l'argent
Depuis, je crois, 1984... Ces fonds existent.
Ça veut dire que le gouvernement congolais met des moyens pour développer le tourisme, mais c'est l'argent, on ne voit pas l'impact sur.
Non, c'est pas le gouvernement qui met cet argent.
Oui.
Cet argent est payé par les consommateurs des produits touristiques. Vous comprenez?
D'accord.
Ça, il faut une autre émission pour qu'on puisse clarifier. Mais le problème, c'est la gestion de ces fonds qui doit servir à la promotion et au développement du tourisme. Ça ne peut pas être géré par les secrétaires généraux.
Par exemple, quand les gens vont visiter les jardins botaniques de Kinshasa ou les jardins zoologiques, on paye.
Oui, on paye. Ça entre en principe au niveau de l'ICCN. Hein. Il faut encore
ministère de l'Environnement.
Il faut que nous puissions peut-être une autre émission qu'on clarifie.
Donc le tourisme, c'est un secteur transversal. Donc il y a et le ministère de l'Environnement qui intervient, le tourisme.
Qui intervient, etc. Oui, mais il y a des structures de gestion et de promotion. Dans le secteur du tourisme, vous avez l'Office national du tourisme. L'État a créé un établissement public avec autonomie financière et de gestion. Et vous avez l'ICCN pour la conservation de la nature. On ne peut pas confondre les deux. L'ICCN, dans le domaine du tourisme, nous disons que c'est le hardware touristique qui garde les attractions ou les attraits touristiques. Vous avez les parcs, vous avez les réserves, ainsi de suite. L'Office national du tourisme, c'est le software touristique qui doit maintenant promouvoir ces filières, disons, ces produits-là, ces attractions à l'étranger.
Le marketing, il faut intensifier le marketing. Vous voyez par exemple l'Égypte avec les pyramides, c'est partout dans le monde, tout celui qui débarque là-bas doit aller visiter absolument les pyramides.
Tout à fait, c'est pourquoi j'ai dit il faut réhabiliter les attributions des composantes de l'administration du tourisme. Il faut réhabiliter. J'insiste sur les concepts. Je suis scientifique, je n'ai rien à voir avec les politiques. J'ai dit, il faut réhabiliter. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si papa doit faire ce que maman doit faire, il y a la confusion dans la maison.
Ça
on
bloque.
Sait que papa, c'est lui le chef. Mais il y a la maman, on sait que c'est elle, le premier ministre.
Il ne faut pas que papa marche dans les
si
plates bandes de maman.
Bon, peut-être papa peut préparer les dimanches, tout. Mais c'est la maman qui s'occupe de ça.
Voilà, on va terminer avec Safari depuis l'Ituri. Bonjour Safari.
Bonjour à vous, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question, rapidement?
Ok, en effet, j'ai une question, une petite question. Nos sites touristiques qui sont à voir des disparitions aujourd'hui, ils datent depuis quand, hein? C'est
simplement une petite question
que j'avais.
Merci. Merci, monsieur Jean-Paul. Vous avez la
non,
parole.
Non, un site touristique ne disparaît pas. Non. C'est pour ça que j'ai dit ici, il y a un problème d'aménagement.
D'aménagement.
Oui. Le site ne peut pas.
Le site est là, il faut le valoriser.
Il est naturel, il est là. Le fleuve est là.
Les rivières sont là.
Les rivières sont là, les lacs. Je vous donne un exemple concret.
Oui.
Peut-être que ça a changé. Quand je partais enseigner à l'université de Goma, à l'école supérieure du tourisme, vous peignez les lacs Kivu.
Le lac Kivu.
De l'autre côté, vous avez les Rwanda, du côté de Gisenyi. Mm. Et vous avez les hôtels qui sont installés tout autour. Et vous avez la plage. De notre côté, il n'y a pas de plage.
Il n'y a pas de plage.
Et chaque week-end, on construit les hôtels gens... dans les lacs.
Dans les lacs, bien sûr.
Il n'y a plus de plage. Mais vous
chaque
voulez
week-end, les gens quittent Goma pour aller vers Gisenyi.
Bon, vous voulez que les gens aillent se divertir où? Ils vont là où il y a des structures qui peuvent les accueillir bien, ils peuvent se distraire à côté.
Oui, passer du temps au niveau de la plage.
Au niveau de la plage, mais nous, n'en avons pas. Alors, vous voulez que nous soyons concurrentiels par rapport à ça?
Ben, nous avons Mwanda, on peut bien aménager là-bas.
Mwanda
vers l'océan, oui. Et les gens peuvent se divertir.
Mais c'est ça, en principe. Voilà. Je parle ici de réhabilitation.
Oui, problème de gouvernance. Déjà, au niveau des structures qui gèrent... Oui. Il y a trop de confusion.
Oui.
Voilà,
oui.
Il faut d'abord décanter la situation
il
là-bas
décante,
et définir clairement une politique
tout
de promotion
fait.
Du tourisme dans
tout
notre pays. Monsieur Jean-Paul Ramazani, expert en tourisme, merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée.
Merci beaucoup.
Péché mortel, péché mortel, maman. Lissomo lissantou, kolinga. Eh, fidélité, zala, nenge, a twiston aïzé.
Lisi bali pati maï, zaba et pati maï, moye a rope parisalité. Lissanta ma pata, pique la mouviase. Yo que iba, ma wase pona yo nashi. Pato zala, kimana yo lissanga. Lela yo toko mi bangu na hana ya, toko mi kolu kana, nanti makite. Mo pepe akaina kumbaka, mo sikana busele kumbaka. Si bololo na tie wa pa,
Il est 11h à Kinshasa.